Je vous salue de la part de l'Église Calvary Baptist Church à Saint-Jean, Terre-Neuve. Et notre frère Yannick a amené un homme sage de l'Est ce matin pour vous apporter le message de la parole. En fait, je suis la preuve que Dieu utilise des gens faibles et je suis reconnaissant au Seigneur. Je veux vous féliciter pour vos 60 ans. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette célébration. Le frère Yannick est un ami et un frère avec François Turcotte de Sambec. Et ils sont de bons amis à moi. Et je veux que vous sachiez que la foi que vous avez au Québec, combien nous sommes encouragés partout au Canada d'entendre parler de votre foi et même partout à travers le monde. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et je suis personnellement reconnaissant pour cette amitié que j'ai avec votre pasteur, Yannick. Et il est un bon ami pour moi. Et l'exemple que vous nous donnez, les Québécois, dans vos relations entre les églises, je suis pasteur de l'enseignement et de la vision à Calvary Baptist Church, et c'est vraiment un privilège pour moi. Je suis né, j'ai été élevé à Terre-Neuve, pasteur 15 ans à l'Île-du-Prince-Édouard, et il y a 4 ans, je suis revenu à Terre-Neuve pour prendre la direction de l'église de Calvary Baptist. Et il m'a donné une vision pour l'implantation de 10 églises dans notre ville. Et comme j'apprends de mon amitié et comme je le réalise maintenant, Terre-Neuve, Saint-Jean a moins de 1% d'évangéliques. Alors aujourd'hui, une population de 300 000, vous ne pourriez pas avoir 500 chrétiens. Pour toute cette population. C'est pour cette raison que nous voulons répandre l'Évangile et pour laquelle nous avons mis sur pied cette mission Mile One. Je vous demande vos prières. Vous nous avez donné un bel exemple de persévérance dans une ville où il y a très peu de chrétiens. Alors, comme le Québec, plus de 80% de la population de Saint-Jean dirait qu'ils sont chrétiens, mais en fait, ils sont catholiques. Et donc, notre province et notre ville est culturellement religieuse, mais dans les faits, de manière pratique, très séculière. Et donc, c'est une autre similarité entre nos villes et provinces. Qui suis-je? C'est un privilège pour moi d'être avec vous. Je suis marié avec l'amour de mon enfance. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 5 ans. Et lorsque je l'ai rencontré, pour ceux qui sont en fréquentation, Jonathan, tu as rencontré une jeune fille. Moi, je lui lançais des cailloux. Et ça a fonctionné. Alors, si vous fréquentez, vous êtes un jeune homme, vous pouvez peut-être essayer de lui lancer des roches. Vous verrez si ça donne quelque chose de bon. Nous avons commencé à nous fréquenter quand j'avais 16 ans. Nous sommes mariés depuis 27 ans. Nous avons 3 enfants. Et notre aîné est marié et nous avons 2 petits-enfants. J'ai un petit-fils et une petite-fille. C'est merveilleux. Je suis pasteur depuis 20 ans dans l'Atlantique du Canada et je prie afin de servir à Terre-Neuve jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Alors, si vous avez une Bible, j'espère, tournez avec moi dans Matthieu au chapitre 9. Notre sœur Judith va venir nous lire la parole de Dieu. Alors qu'elle se prépare, je veux simplement introduire. Je veux vous parler de l'exemple de Jésus et son appel à la mission. C'est votre anniversaire 60e anniversaire. Cette église est ici depuis 60 ans. 60 ans, pensez à cela. Je veux que vous réfléchissiez à tous ces gens qui vous ont précédés. Je regardais les images, cet héritage de foi qu'a cette église. Et comment allez-vous porter ce témoignage-là pour les 60 prochaines années? Et je crois que la manière que cela va se faire, il va continuer à être un phare de l'Évangile à Montréal et dans toute la région et la province du Québec. Dieu va vous utiliser pour voir d'autres églises être équipées et implantées. Nous devrons suivre l'appel de Jésus de compassion et de mission. Alors voilà ce que je veux que nous regardions ensemble. Matthieu chapitre 9, débutant au verset 35. Et elle va lire jusqu'au chapitre 10, verset 4. Alors, lorsque Matthieu écrit cet évangile, cette biographie de Jésus du premier siècle, il consacre les chapitres 1 à 4 à nous présenter Jésus, sa puissance, son autorité. Il annonce, il est même annoncé, sa venue est annoncée à travers des visions jusqu'à son baptême où le Père va confirmer qu'il s'agit bien de son Fils. Et au chapitre 5, 6 et 7, nous voyons Jésus prendre autorité dans ce sermon sur la montagne. Et il annonce avec autorité, il a été annoncé avec autorité, il prend autorité dans sa parole. Et 8, 9 et 10, par son autorité, il va agir, il va donc confirmer son message par ses actions. Et notre sœur Judith va nous lire ce passage-là. Écoutez bien, Matthieu 9, 35 à 10, 4. Prenons conscience que Jésus est apparu sur cette scène avec... Il a été présenté avec autorité, il a pris autorité pour parler, et à présent, il prend autorité dans sa vie.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Matthieu, chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 4, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu, chapitre 9, verset 35, au chapitre 10, verset 4. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus.
Voulez-vous vous courber avec moi, s'il vous plaît? On va prier. Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité de se réunir comme le peuple de Dieu, fils et filles de Dieu. Je te remercie pour l'obéissance de Jésus-Christ qui est venu, a vécu et est mort à notre place, ressuscité d'entre les morts, vainquant la mort et le péché. Nous savons que lorsque nous pouvons nous confier en toi, sachant que nous sommes adoptés comme fils et filles de Dieu, et sachant que lorsque nous prions, nous pouvons dire « Père ». Je te remercie pour la parole de Dieu. Tu nous as bénis. Je t'adore, je te loue de ce que c'est un livre vivant que nous pouvons recevoir et appliquer dans nos vies, qui va nous diriger et nous transformer. Alors, Père, alors que nous consacrons ce temps à nous pencher sur tes Écritures, que par ton Esprit Saint, ce Consolateur que le Fils nous a envoyé, vient nous parler. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui est découragé, viens les encourager. Si quelqu'un est en colère ou rempli de doutes ou de questions, viens, s'il te plaît, leur donner tes réponses. Si quelqu'un a besoin d'être encouragé ou de se repentir d'un péché, par ta parole et par ton esprit, viens leur montrer qu'ils peuvent te faire confiance et qu'il est sain et sécuritaire d'être honnête avec toi. Je te prie pour nos mariages, pour les familles. Je te prie pour cette Église afin que tu lui donnes encore 60 ans de témoignages sans gêne, ferme de ta parole. Alors conduis-nous maintenant, alors que nous nous penchons sur ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, regardez dans vos Bibles, s'il vous plaît, si vous avez la parole. Je veux attirer votre attention sur quelques éléments. Je songeais à cette opportunité d'être avec vous. C'est la première fois que j'apporte la parole de Dieu au Québec. Quel privilège d'être avec vous et avec mon ami Yannick. Mais il me parlait donc de cet anniversaire, 60e, et vous avez célébré. Vous aviez eu une belle célébration hier soir. Mais je ne sais pas, Mon père est pasteur aussi. Il a 72 ans. Il est toujours pasteur. Une petite église de campagne en Nouvelle-Écosse avec 30 personnes. Alors, j'ai été élevé dans une église presque toute ma vie. Mes parents sont venus à l'Évangile alors que j'avais 5 ans. Mes deux parents se sont convertis à 2 semaines d'écart. Alors, j'ai toujours été dans l'église. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'il y a des anniversaires comme ça, on a des conférences d'église, on a des retraites de jeunesse, on a toutes sortes d'activités et nous avons des retraites. Je ne sais pas vous, mais il y a des moments où je me disais, pourquoi on fait tout ça? À quoi ça sert? Pourquoi chaque semaine des rencontres d'église? Pourquoi? À quoi ça sert? Vous avez lire votre Bible et vous avez toutes ces choses à faire. On entend des prédications, des mises à jour. Et je suis ici devant vous et je viens vous parler encore des besoins à Terre-Neuve. De l'implantation d'églises, comme avec la mission One Mile. Vous allez entendre des messages qui viennent d'Ésaïe 6, ce grand passage, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». On entend la grande commission. On se fait dire qu'on doit aller faire des disciples, ou Actes 1, 8, où nous sommes des témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie. Et je ne dis pas que toutes ces choses soient mauvaises. Au contraire, nous devons célébrer. Nous devons avoir des conférences missionnaires. Il y a des moments où on va se réunir. Mais je pense que parfois, la familiarité peut nous amener à négliger ou à être complaisant. Parfois, on suit simplement la motion. Ça fait 27 ans qu'on est mariés et nous avions l'habitude de dire « je t'aime ». Et à présent, des fois, on le fait seulement par instinct. Ce matin, je lui ai téléphoné et puis je voulais me rendre à l'église, puis je l'ai appelé. Je voulais lui dire que mon linge, tout était bien agencé. Et avant de terminer, je lui ai dit, je t'aime. Mais je ne sais pas vous, mesdames, mais mon épouse connaît la différence entre je t'aime simplement par habitude et je t'aime et mon esprit et mon cœur sont engagés. Et parfois, cela peut nous arriver dans l'église. Nous sommes ici pour célébrer 60 ans de la grâce de Dieu, sa miséricorde pour cette Église, cette manifestation de l'épouse de Christ, sa fidélité envers vous. Vous avez pensé à ceux qui ont été fidèles, qui ont annoncé la parole, qui vous l'annoncez, qui ont fait de la formation de disciples avec vous, qui sont devenus vos amis. Et comment allez-vous honorer à votre tour ceux qui vous suivront alors que vous célébrez ces 60 ans? Croyez-le ou non, peut-être que l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 12, je pense que c'est un bon verset à lire aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout ce qui peut nous ralentir et du péché qui nous enveloppe si facilement, afin d'être fidèles, regardant à Jésus, le fondateur de notre foi, qui, pour la joie qui était devant lui, a subi la croix, enduré la croix, et a méprisé le péché et est aujourd'hui à la droite de Dieu. C'est Christ qui a souffert pour des pécheurs comme nous, l'hostilité à son égard, afin que vous ne soyez pas accablés par le péché ou affaiblis. Alors, voici ce que je veux vous partager ce matin pour ce 60e. Alors que nous nous préparons à célébrer même Noël, voici ce que je désire demander à Dieu de faire ce matin avec vous. Simplement, est-ce que nous pourrions simplement dire, Père, Père notre Dieu, parle-moi. Montre-moi une chose avant de quitter ce matin. Viens me parler de toi, Jésus, qui va me transformer. Que chaque fois que nous nous approchons de la parole, nous puissions simplement dire, j'aimerais vous poser quelques questions pour que vous puissiez vous interroger vous-même. Quelle sorte de personne êtes-vous? Quand vous pensez à vous-même, comment est-ce que vous décririez? Laissez-moi vous demander, comment vous décririez-vous? Serait-ce de la même manière que d'autres vous décriraient? Si j'allais voir votre voisinage, votre famille, vos enfants, vos voisins ou vos collègues de travail, est-ce qu'ils vous décriraient de la même manière que vous vous décrivez vous-même? Si vous êtes ici ce matin et que vous diriez, « Écoute, Pasteur Steve, je suis un chrétien. » Je suis un disciple de Christ. Je suis Jésus-Christ. Alors, je vais vous demander humblement, que voulez-vous dire? À quoi cela ressemble-t-il? Je pense qu'au Québec, comme à Terre-Neuve, nous avons une manière d'être en relation, des fois un peu directe, n'est-ce pas? On ne tourne pas autour du pot. On dit les choses comme elles sont. Nous disons ce que nous avons sur notre cœur. Nous disons, si vous n'avez pas une opinion, ça va nous faire plaisir de vous en donner une. Alors, comment, à quel point Jésus est-il important pour vous? Comment Jésus vous a-t-il transformé? Transformé votre manière de penser, votre cœur, votre attitude, votre manière de considérer la vie et la vie à venir? Comment Jésus a-t-il changé vos désirs, vos pensées, votre manière de dépenser votre argent ou économiser votre argent ou partager votre argent? Comment Jésus a-t-il changé votre manière de voir les gens? Comment Jésus a-t-il transformé votre manière de pardonner aux autres et votre manière d'accepter même le pardon pour vous-même? Et je vais aller un pas plus loin. Comment cette vie chrétienne est-elle pour vous actuellement? Dans cette saison de vie que vous traversez, la vie chrétienne est-elle agréable ou difficile? Êtes-vous fatigué d'essayer? Est-ce que vous faites semblant, en quelque sorte, vous avez mis votre costume de chrétien, vous venez à l'église, mais vous savez en fait que vous devez offrir un beau sourire? Et lorsque les gens vous demandent comment ça va, vous avez préparé vos bonnes réponses. Ah oui, ça va très bien. Mais en fait, dans votre cœur, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous trouvez difficile de lire la parole? Trouvez-vous difficile d'être honnête avec vous-même et avec Dieu, avec ceux qui vous entourent? Si vous dites oui à une de ces questions-là, ce que Jésus a lu est pour vous. Ce collecteur de taxes, Matthieu, qui s'est fait inviter par Jésus à être un disciple, c'était en fait un traître à son pays, à sa nation. Il collectait les taxes pour l'envahisseur, pour les Romains. Et puis, nous sommes dans cet évangile de Matthieu. Et là, lorsque vous lisez Matthieu, nous devons avoir à l'esprit que Jésus est maintenant monté au ciel depuis 20 à 40 ans. Ça fait longtemps que Jésus est parti. Alors, pensez-y, retournez 20 ans, 40 ans en arrière, ceux qui sont plus âgés. Pensez à tout ce temps qui s'est écoulé, 20 ans, 40 ans. Et ce Matthieu est en train de s'adresser à cette église qui répand l'Évangile partout dans l'Empire. Des milliers de personnes sont venues à l'Évangile. Alors, pourquoi est-ce que Matthieu écrirait cela? Je veux vous proposer qu'il est en train de nous rappeler aux chrétiens qui les a sauvés, qui ils servent et qui est Jésus vraiment. Voyez-vous, voici comment je résumerai le message. Je vous dirais, si vous dites que vous êtes chrétien, je veux que vous sachiez qu'un véritable chrétien n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être convaincu à obéir à Christ ou à servir Christ ou certainement pas à prier à Christ. Un vrai chrétien n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être convaincu ou persuadé de dire aux autres, leur parler de Christ, de l'Évangile. En fait, je vous encourage, si vous lisez la Bible, spécialement le Nouveau Testament, vous allez découvrir rapidement qu'il n'y a pas d'effort dans le Nouveau Testament de convaincre les chrétiens de servir Christ. Mais constamment, il nous est rappelé de nous souvenir qui nous sommes en Christ. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean écrit à l'église d'Éphèse, citant Jésus, « Mais j'ai ceci contre vous. » Que vous avez abandonné, tu as abandonné ton premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi et fais les œuvres que tu faisais dans ton premier amour. Le remède n'était pas sain, mais rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ, ce que tu as en Jésus-Christ. Le problème pour beaucoup de chrétiens, c'est que nous chantons « Béni soit le nom du Seigneur », mais ton visage semble dire tout le contraire. Nous connaissons les versets, nous connaissons les chansons, mais les gens nous regardent aller et disent « Mais comment ça se fait que ça ne semble pas vrai, cela? » Je ne veux pas dire qu'on devrait avoir un faux sourire juste pour chanter les chants de Disney. Ce que je veux dire, c'est que la puissance de faire face à une phase terminale, à une crise, un mariage en difficulté, un enfant qui s'éloigne du Seigneur, comment on fait face à ces épreuves, ces difficultés? Lorsque vous perdez votre emploi, une relation brisée, nous avons quelque chose qui nous donne des assises plus fort encore que ces épreuves et qui va permettre aux gens autour de nous d'être fascinés par notre réponse. Vous avez vu cette dame à Dallas qui a été reconnue coupable d'avoir tiré par erreur et un homme est le tuant. Et le frère de la victime, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, lors du jugement, a dit à la dame qui a tué, a dit « Je lui pardonne et j'aimerais lui donner une accolade. » Et les gens sur Twitter étaient séparés en deux. Certains méprisaient ce geste et d'autres étaient dans l'admiration. Et voyez-vous, le message de l'Évangile qui était manifesté par ce jeune homme va soit vous fasciner, soit vous scandaliser parce qu'il a offert ce pardon dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, mon point, alors que vous fêtez ce 60e, c'est que nous trouvons dans Matthieu la ressource pour continuer à grandir comme Église pour 60 ans encore sans nous épuiser. Nous devons suivre cet exemple de compassion en Jésus pour avoir compassion envers les gens et être une Église qui a compassion envers l'Église. Nous voyons ici Jésus aller de village en village dans les synagogues annonçant l'Évangile et voici, il guérissait toutes les maladies. Non pas certaines ou un grand nombre, mais toutes les maladies, toutes les souffrances. Et lorsqu'il a vu la foule, il a eu compassion d'elle, car ils étaient fatigués et abattus, comme des brebis sans berger. Josephus, l'historien du 1er siècle, nous dit qu'à cette époque, il y avait probablement 200 villes et villages en Galilée. Alors Jésus voyage dans toutes ces villes et villages. On estime la population à entre 300 000 à 1 million de personnes à l'époque. Et donc, Jésus consacre de 18 à 36 mois à avoir un ministère envers près de 1 million de personnes. Je suis un gars de mathématiques, alors Jésus parlait jusqu'à 600 personnes par jour pendant ces 3 années. Apprécions ce défi. La pression qu'il portait, les demandes qu'il recevait, la compassion que cela demandait. Alors Matthieu nous dit qu'il guérissait toutes les maladies. Je pense que parfois on se méprend et on est fasciné par les miracles, mais vous seriez peut-être surpris de voir combien il y a si peu de miracles. Si vous lisiez de la Genèse jusqu'à Malachie, tout l'Ancien Testament, et ensuite du livre des Actes jusqu'à l'Apocalypse, on trouve environ 140 miracles au total, qui représentent environ 6 000 ans. Ce n'est pas tant de miracles que ça. Mais lorsqu'on arrive à Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous avez des centaines, si ce n'est pas des milliers de miracles. En fait, John MacArthur dit que Jésus a éliminé pratiquement toute la maladie de la Galilée, pendant une période de temps. Quelle compassion, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous demander, comment va ta compassion? Combien es-tu compatissant lorsque tu sens la pression de tous ces besoins autour de toi? Vois-tu, la compassion est l'émotion qui est le plus souvent soulignée chez Jésus lui-même à travers la Bible. Maintenant, regarde tout ce qu'il a donné et tout ce qu'il donnera lorsqu'il mourra sur la croix. Et dans ce passage, les gens sont abattus comme des brebis sans berger. Ils les regardent et ils voient qu'ils sont dirigés par des dirigeants religieux. Ils voient qu'ils sont perdus dans leurs péchés, aveuglés par le diable. Et donc, qu'ils sont confus et qu'ils cherchent le plaisir sans jamais trouver la paix. Est-ce que cela ne résonne pas comme quelque chose de familier? Jésus voit l'effet du péché. Il sait très bien que tous ceux qui sont dans cette condition sont sans Dieu. Est-ce que nous avons ce regard pour les gens autour de nous? À Saint-Jean, nous avons un endroit qui s'appelle Signal Hill. C'est un parc provincial et de là, vous pouvez voir toute la ville de Saint-Jean. Et une fois par semaine, je m'y rends et je prie sur ma ville. L'an dernier, je suis venu à Montréal et des amis m'ont conduit à un endroit, à l'oratoire Saint-Joseph, là où il y a eu beaucoup de miracles, semble-t'il. Et on y trouve une vue sur la ville de Montréal. Et je me rappelle, et l'an dernier, mes yeux étaient couverts de larmes alors que je voyais tous ces bâtiments et aussi loin que je pouvais regarder. Et Dieu m'a frappé par cette réalité que la majorité des gens et des immeubles que je vois sont remplis de gens qui ne connaissent pas Jésus. Où est notre compassion? Alors, lorsque je vous demande comment se porte votre compassion, laissez-moi placer ce défi devant vous qui pourrait mettre en péril votre compassion. Premièrement, une perspective épuisée. Vous pouvez être fatigué tout en faisant les bonnes activités. Vous êtes épuisé, vous êtes stressé. Il y a beaucoup de choses qui sont déposées sur vos épaules. Alors que je me préparais à venir, j'étais au milieu de la préparation de mon message et je pensais à nos rencontres de TGC. Et j'ai eu un appel lundi matin par un jeune pasteur au milieu de sa vingtaine, un disciple à moi comme un fils. Et il pleure à l'autre bout de la ligne et il dit, « Papa, j'ai trompé ma femme. » Et je lui ai dit, « Je veux te prendre dans mes bras puis je veux te frapper en même temps. » Et cela est épuisant, le stress de recevoir cette situation. Et parfois, tu es tenté de dire, « Seigneur, je n'en peux plus. » Pourquoi est-ce que les gens ne pourraient pas faire la bonne chose pour une fois? Puis ta compassion s'épuise. Tu connais cela. Vous connaissez D.A. Carson, son père a été fidèle missionnaire ici au Québec. Et il parle de sa compassion qui parfois s'épuisait. Lorsqu'il étudiait pour sa maîtrise, il a eu un moment de découragement. Et un pasteur qui le supervisait, Ken Hall, lui a suggéré d'aller à un lac qui était 40 milles au loin. Et ils avaient très hâte de s'y rendre. L'eau était propre et c'était un lieu calme. Et il y avait une petite barque où on pouvait aller. On pouvait nager dans l'eau jusqu'à un quai. Il avait hâte d'y aller et juste se reposer, être encouragé, sans plus de demandes, plus de fardeau du ministère. Et il a dit, et à mon horreur, nous avons trouvé la plage remplie d'adolescents. Ils avaient une fête sur la plage pour célébrer la fin des classes, la graduation, avec des systèmes de son et du rock qui faisaient que les habitants de Ottawa étaient harcelés par ce son. Et beaucoup de ces jeunes étaient déjà ivres, et la célébration avec l'alcool et les costumes de bain nous assuraient que cet endroit serait honteux et offensant. Il était déçu de voir sa soirée être complètement ruiné par ce party sur la plage. Et je me préparais à me scandaliser devant tout ce péché et déverser sur eux mon venin. Mais j'ai été frappé de voir sur les yeux de mon père, plein de compassion, devant ses enfants, disant, « Quel champ de mission incroyable! » Et Dr. Carson dit, Ken et moi avions vu la même chose, mais nous n'avions pas le même regard. La différence n'était pas la réalité, mais sa compassion et mon manque de compassion. Vous voyez, lorsqu'on devient centré sur nous-mêmes, nous pensons à nous, notre découragement. Vous allez avoir une perspective fatiguée, épuisée. Un autre obstacle à la compassion, c'est la paresse. Ou la complaisance. La paresse ou la complaisance. Voyez-vous, lorsque nous avons de la difficulté dans nos églises, c'est que parfois nous ne savons pas ce qu'est la différence entre la sympathie et la compassion. Alors soyez honnête, s'il vous plaît. Qui ici a déjà regardé la télévision, l'émission de réalité Amazing Grace? Admettez que vous regardez la télévision. Amazing Grace est une télé-réalité. Plus ou moins réalité, où vous voyez toutes sortes d'adolescents qui... maintenant, on en a une au Canada, et ils courent partout. Et si vous vous rendez jusqu'à la fin, vous pourriez gagner 1 ou 2 millions de dollars. Alors, mon épouse et moi regardions cela fidèlement pendant une saison, et j'étais frappé à l'un des épisodes, tous les compétiteurs devaient se rendre aux Indes. Ils atterrissent là-bas dans la capitale, Et vous savez comment la télévision fonctionne, il y a de la musique et vous savez qu'il y a quelque chose de dramatique qui s'en vient parce que la musique vous prépare. Et vous entendiez des violons, des violoncelles. Vous savez qu'il y a quelque chose de dramatique allait se produire. Et ils sortent dans l'aéroport et ils voient cette immense ville. Et tout à coup, vous voyez ces participants qui sont entourés par des enfants mendiants. Et la caméra s'approche d'eux et vous voyez ces petits visages. Et vous voyez toutes les fleurs qui pleurent. Et les gars qui veulent cacher le fait qu'ils pleurent aussi. Et chacun d'entre eux disent combien cela les rendait tristes. Mais aucun d'entre eux s'est arrêté pour donner quoi que ce soit aux enfants. Parce qu'ils faisaient une course pour gagner 2 millions de dollars. Alors, ils ont couru, ils ont laissé les enfants là. Parce que le premier arrivé à la ligne d'arrivée allait gagner 2 millions de dollars. Ils étaient sympathiques, mais n'avaient aucune compassion. Et c'est peut-être le cas dans nos églises. Aujourd'hui, à travers le Canada, nous prions pour les âmes perdues de Montréal ou du Québec, ou lorsque, à mon église, nous prions pour les âmes perdues de Saint-Jean. Est-ce que nous prions pour tout cela avec une présence de Dieu, demandant une présence de l'Évangile? Est-ce que nous faisons quoi que ce soit, ou nous prions simplement? Nous prions, nous pleurons, mais sans jamais passer à l'action. Voyez-vous, les chrétiens aiment servir. Mais en d'autres mots, la compassion dans le ministère n'est pas la caractéristique d'un type de personnalité. C'est la caractéristique d'une personne qui a un certain type de priorité. Vous serez rempli de compassion lorsque vous suivrez la compassion de Jésus. Regardez ce qu'il fait ensuite. Il nous dit tout cela. Et ensuite, regardez ce qu'il nous dit. Si vous êtes une église qui sera remplie de compassion, vous devrez suivre le commandement de Jésus de prier. Regardez ce qu'il fait. Au verset 37, il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà, pour cette raison, priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. » Alors, comment est-ce qu'on va à la suite de cette compassion? Comment est-ce qu'on devient une église de compassion comme Jésus? Jésus dit « La première chose à faire, c'est prier. Vous devez prier. » Et voici la raison, il nous la donne. Parce que seul Dieu peut sauver. Amen. Et nous avons désespérément besoin qu'il vienne sauver. C'est pour cela que nous prions. Jésus utilise l'expression « la moisson ». En 2019, il veut que nous regardions les gens à l'image de Dieu, sans berger, des brebis perdues, esclaves perdus, rejetant Dieu, refusant d'entendre, souvent en colère contre Dieu, remplis de doutes, et pourtant, ils ont besoin de l'Évangile comme vous et moi. Parce qu'avant de devenir chrétien, j'étais exactement comme ces gens. Encore Dr. Carson qui nous dit, « Nous ne pouvons nous enorgueillir de l'Évangile. Nous sommes simplement des mendiants qui avons trouvé de la nourriture. » Si nous sommes chrétiens, nous sommes des mendiants qui avons trouvé la nourriture de l'Évangile. Et donc, si nous voulons être un peuple rempli de compassion, nous devons prier. Lorsqu'il regarde cette population, il dit, ils sont comme des brebis sans berger. Il ne se tourne pas vers ses disciples et dit, commencez un autre programme, partez à Iwana, ayez un programme pour les enfants, un programme pour la jeunesse. Non, il dit, premièrement, priez. Et encore une fois, Dr. Carson nous dit, nous pourrions demander à Dieu de sauver bien des gens. Et sans aucun doute, ce serait une bonne requête. Mais ce n'est pas là que Jésus nous dirige. Jésus travaille à travers des moyens. Et il faut donc demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et donc, de répandre l'Évangile à travers des ouvriers. Ce n'est pas simplement demander des ouvriers, mais demander des ouvriers qui seront remplis de ces dons pour aller vers cette moisson. Nous prions donc pour que Dieu bouge au milieu de nous et qu'il suscite des ouvriers au milieu de nous. Vous êtes cet ouvrier probablement. Et si Dieu ne suscite pas des jeunes hommes, des jeunes femmes ici pour aller répandre l'Évangile, et certains d'entre vous qui êtes dans la quarantaine, certains d'entre vous qui êtes au début de votre retraite, pour devenir ces gens remplis de compassion et des gens qui prient. Alors nous allons avec l'Évangile. Nous sommes remplis de la compassion de Christ et nous sommes poussés par cette prière. Et regardez chapitre 10, verset 10, et il dit maintenant, allez. Nous sommes donc appelés à suivre cet exemple de compassion, ce commandement de prière et son exemple d'aller. Et voici, il dit, priez le maître d'envoyer des missionnaires, des ouvriers dans la moisson. Et ensuite, il appelle les 12 disciples, il leur donne l'autorité de guérir et il leur dit maintenant, allez! Alors, il dit, je veux que vous priez et maintenant, vous allez être la réponse à vos prières. Alors, lorsque vous priez puis tu dis, Seigneur, envoie des ouvriers, Jésus, que se passe-t-il si Jésus dit, oui, vas-y. Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à aller? Écoutez, les amis, l'appel à la prière est central, mais ce n'est pas tout. Comme la foi sans les œuvres est morte, comme la prière sans la mission est morte. Nous sommes appelés à être prêts à mettre des pieds et des mains pour mettre en œuvre nos prières. Regardez, tout cela est consistant et fidèle à Matthieu. Lorsque, un peu plus tôt, il appelle les frères Jacques et Jean, André, et il leur dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ne vous demanderai pas d'être des pêcheurs d'hommes. Je ne vous inviterai pas à devenir des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » David Platt a dit, remarquez dans cette invitation, Jésus ne dit pas à ses disciples ce qu'il va les appeler à faire, mais il leur dit ce qu'il va faire d'eux. Tu ne peux pas connaître l'Évangile, connaître tes péchés qui ont été pardonnés, savoir que tu es en paix avec Dieu, savoir que tu es réconcilié avec Dieu, que tu as la paix de Dieu, et ne pas vouloir parler de cela. C'est ce que tu es. Le commandement que Jésus leur donne et à chacun d'entre nous, c'est que c'est par cette puissance qui agit en nous que nous allons faire cette œuvre. Les disciples n'ont pas eu besoin d'être convaincus d'aller. Ils désiraient y aller. Est-ce qu'ils avaient peur? Bien sûr. Est-ce que certains d'entre eux trouvaient cela difficile d'annoncer ce message? Certainement. Mais de manière sacrificielle, ils se sont donnés pour celui qui s'est donné pour eux. Pierre a prêché alors qu'il était en prison. Il a donné sa vie à Christ et l'histoire nous dit qu'il a été crucifié tête en bas. André a été crucifié alors qu'il prêchait pour Christ. L'autre Judas a été abattu à coups de gourdin. Thomas, rempli de doutes, a pourtant été mis à mort par une lance. Jacques a été décapité. Philippe a été lapidé et Matthieu a été brûlé au bûcher. 11 hommes ordinaires, mais ils ont été sauvés et transformés par Jésus. Voyez-vous, ils ont reçu le message ici de regarder avec compassion, de prier avec urgence et d'aller avec obéissance. Et c'est l'appel de cette Église pour les 60 prochaines années et c'est l'appel de cette Église cet après-midi. C'est votre appel en allant au travail. Et peut-être vous me direz, « Pasteur Steve, tu ne me connais pas. Tu ne comprends pas, je suis un peu craintif. C'est pas que j'ai honte. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de les induire en erreur. » Écoutez-moi, la meilleure réponse que vous pouvez donner à qui que ce soit, la plus meilleure réponse théologique, ce n'est pas un grand exposé sur la Trinité. C'est simplement, « J'étais perdu. » Maintenant, je suis en Christ. J'étais aveugle, maintenant je vois. Donnez-leur votre témoignage. Racontez-leur comment Jésus est en train de changer votre vie. Laissez-les voir comment Dieu dans votre vie fait la différence. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce que les hommes vous auraient à dire aux hommes. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des résultats. C'est Dieu qui sauve. Vous n'avez qu'à être un chrétien. Alors écoutez, voici ce que je vous invite à ramener avec vous à la maison aujourd'hui. Je veux que vous rappeliez que selon Matthieu 9, nous sommes appelés à être des exemples, comme Jésus-Christ, de compassion pour chacun d'entre nous et pour notre prochain. Cela doit commencer à la maison, dans l'église et puis dans la ville. Je ne sais pas pour vous, mais dans l'église anglophone au Canada, je vois souvent, il semble y avoir chez les chrétiens, et je me prépare à écrire un livre un jour, pourquoi les chrétiens tirent-ils leurs blessés, abattent-ils leurs blessés? Pourquoi manquons-nous de compassion dans nos églises, les uns envers les autres, être patient. C'est vraiment intéressant. Lorsque tu es pasteur et que tu vois un passage comme celui-là, pendant les trois premières semaines qui ont suivi ma prédication, j'étais en Colombie-Britannique, je prêchais dans une église, et à cause du changement d'horaire, qui est 4 heures, on était au milieu de la nuit, et mon téléphone a sonné, et j'ai répondu, et c'est mon fils aîné qui m'appelait. Et il pleurait, et me disait, « Papa, j'ai honte de te dire cela, j'ai manqué. » Ma blonde est enceinte, nous ne sommes pas mariés. Alors, il m'appelait dans la nuit pour me dire qu'une fille était enceinte de lui, mais je ne l'avais même pas rencontrée, je ne savais même pas qu'il avait une copine. Et il m'a dit, je suis désolé, c'est honteux, tu es pasteur, c'est honteux pour Dieu, pour l'Église, pour maman. Je sais que grand-papa va être honteux. Si tu veux que je disparaisse, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais votre esprit va à toute vitesse. Et j'entends mon fils me dire cela. Et je me dis, je suis à 5000 kilomètres. Je suis à 5000 de mon épouse. Je ne sais pas comment elle se sent. Je dois penser à l'Église. Et puis le diable qui vient chuchoter à mon oreille la honte sur mon ministère. Et le Seigneur m'a donné compassion. Voici les mots qui sont sortis. Mon fils, tu m'as vu prendre soin de gens depuis 20 ans. Si je ne peux pas prendre soin de toi maintenant, je ne mérite pas d'être un pasteur. Et j'ai prié avec mon fils. Et je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'allais l'accompagner, que s'il voulait revenir à Christ, Dieu pouvait tout faire pour restaurer. Et 2 ans plus tard, je me tiens devant vous et mon fils est marié avec cette jeune femme. Et j'ai 2 petits-enfants glorieux. Et il a joué la batterie la semaine dernière parce qu'il aime Jésus. Mais vous devez avoir cette compassion comme Christ. Et c'était difficile, il a fallu que j'en parle avec les anciens. Mon fils est venu partager à l'Église et l'Assemblée s'est approchée de lui. Je me souviens, lorsqu'il a confessé cela à l'Église, les gens sont venus lui faire des accolades et prier pour lui. Alors, on doit voir cela dans nos églises. Voyez-vous, ce qui brise mon cœur, c'est que la semaine dernière, on a vu cet homme prendre dans ses bras ce policier qui avait tué son frère, et on doit voir cette même compassion dans nos églises. Le deuxième est évident, nous devons prier. Est-ce que nous prions? Est-ce que vous avez vu ces annonces où ils disent « Merci, capitaine évident ». Il me semble que c'est évident qu'on devrait prier. Le prophète dit dans Ézéchiel 22, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, mais j'en ai trouvé aucun. » Nous sommes dans une période d'élection et c'est facile de critiquer nos dirigeants. C'est facile de critiquer l'avortement dans notre pays et voir notre pays qui s'éloigne de Dieu. Mais ils n'ont pas besoin que nous soyons critiques, mais que nous prions. Nous devons être des chrétiens qui prient, des églises qui prient et qui ont de la compassion, qui prient et qui ont de la compassion. Et enfin, nous devons aller avec l'autorité et la puissance de Dieu à cause de la compassion qu'il a mis dans nos cœurs. Quand vous avez une compassion comme Christ, vous ne pouvez plus vous retenir d'aller. Vous me voyez ce matin, je suis devant vous, vous ne me connaissez pas, mais ma vie est complètement folle. Je suis un fils unique. Mes parents se sont convertis quand j'avais 7 ans. Et mes parents sont allés dans différentes familles d'accueil lorsqu'ils étaient jeunes. Et moi-même, j'ai été amené dans plusieurs familles d'accueil. J'ai tenté de m'enlever la vie à plusieurs reprises. À 14 ans, j'ai fui la maison. Et Dieu m'a sauvé de manière glorieuse. Et mon père m'a pardonné toute cette vie complètement folle. Et il a quitté le ministère pour prendre soin de moi. Et mon père est mon héros sur terre. Mais lorsque tu as expérimenté la grâce, tu ne peux faire autrement que la partager à d'autres personnes. Même si vous semblez donc être un si vous avez toujours été un bon chrétien, ou si comme moi, vous êtes ce fils prodigue, mais vous savez que Dieu vous a sauvé de vos péchés, de votre injustice devant Dieu. Vous avez cela sur votre cœur, de partager l'Évangile. Là-bas, je leur dis toujours, l'Église ne peut pas te sauver. Je peux parler de discussions religieuses tout le temps. Mais lorsque je dis à mes collègues de travail, ton Église catholique ne peut te sauver. Oh là, c'est comme si je viens de déclarer la guerre. Mais vous savez quoi? Mais c'est pas grave. On se moque de moi, on me crache dessus, on se moque de moi dans ma propre ville. Et cela ne me dérange pas, parce que Jésus m'aime et il les aime. Et j'étais comme eux, avant que Christ vienne dans ma vie. Alors je demande à Dieu tous les jours, remplis-moi de compassion. Et lorsqu'il répond, il m'envoie et il vous envoie. Voyez-vous ce qui se passe dans ce monde, dans ce pays, sur cette planète? Si nous n'allons pas dans la prière et entendre l'appel de Dieu, et si vous ne priez pas pour vos enfants, qui va le faire? Si vous, époux, vous ne priez pas pour votre épouse, qui va le faire? Et les époux, si vous ne priez pas pour votre époux, qui va le faire? Si vous ne priez pas pour vos parents, qui va le faire? Si vous ne priez pas pour vos oncles, votre famille, vos frères et sœurs, vos collègues de classe, votre employeur, vos collègues, si vous ne priez pas pour Montréal, qui va le faire? Et que Dieu vous vienne en aide, si d'autres gens prient plus pour Montréal que vous le faites. Je veux que vous priez pour Saint-Jean, mais je veux m'assurer que je prie plus que vous encore, parce que c'est moi qui vis là. C'est moi qui est là. Alors que Jésus transforme l'intelligence de ses disciples, ils ont la conviction qu'ils doivent annoncer ce message de l'Évangile, alors qu'ils transforment leur désir, ils ont maintenant le désir d'annoncer l'Évangile, et alors qu'ils transforment leur volonté, ils sont poussés à donner leur vie pour annoncer l'Évangile. Et alors que Jésus transforme leur relation, ils ont assez d'amour pour partager l'Évangile avec eux, bien que ça leur coûterait tout ce qu'ils possèdent. Et alors que Jésus transforme le but de leur vie, tous ses disciples veulent s'engager sacrificiellement à faire des disciples. Et la trajectoire de leur vie n'a jamais plus été la même. L'Église de l'espoir, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Dans votre Église, on m'a dit que cela signifiait l'Église de l'espoir. Est-ce que c'est ça? L'espoir. Est-ce que ce sera l'espoir pour les 60 prochaines années? Ce sera seulement si vous êtes rempli de compassion, de prière et que vous allez. Si vous êtes un peuple qui est rempli de compassion, qui est dans la prière et qui va. Et par la grâce de Dieu, si vous le faites, certains de ces enfants dans 60 ans d'ici vont s'asseoir ici, vont chanter « Béni soit le nom du Seigneur ». Amen. Prions. Père, notre Dieu, je te rends grâce et je demande désespérément que ce peuple ait reçu un meilleur sermon que tout ce que je pourrais apporter. Et je prie s'il y a une personne ici ce matin qui peut-être a été invitée en raison de la fête et qui ne vous connaissent pas, ils ont vu ces chants. Et ce gars de Terre-Neuve qui prêche à partir de la parole, s'ils ont des questions concernant l'Évangile, s'ils ont des questions comment se réconcilier avec Dieu et que leur vie ne leur appartient pas, mais qu'elle t'appartient et que leur passé n'a pas à les garder prisonniers, mais qu'ils peuvent te connaître, libérés de leur passé, libérés de leur péché, avec une nouvelle valeur, une nouvelle identité. Je prie pour cette Église, Seigneur, je ne connais pas les besoins, mais je suis convaincu qu'avec tous ces gens, certains cherchent un emploi, prient pour des comptes qu'ils ont de la difficulté à payer, certains d'entre eux luttent dans leur mariage, certains ont été trahis dans leur mariage. Certains enfants se fuient, se sauvent de toi. Certains parents traversent peut-être ce que moi j'ai traversé il y a 2 ans. Je prie, Seigneur, que nous connaîtrions cette compassion comme toi, que nous prions avec urgence, avec passion, et que nous soyons disposés à partir annoncer l'Évangile autour de nous, à notre voisinage. Et donc, je te demande, Seigneur, si quelqu'un ici a besoin de toi, donne-leur le courage de parler à Yannick, à un des anciens, un ami ici à l'Église, afin que quelqu'un prie avec eux, réponde à leurs questions. s'il y a des chrétiens ici qui sont découragés, qui luttent, Seigneur, qu'ils sachent que la solution est de venir à toi, non pas de se cacher de toi, de venir à l'Église, non pas de fuir l'Église. Seigneur, donne-nous de la compassion, des églises de compassion, des églises de prière, des églises qui vont. Et que tu viennes, Seigneur, nous remplir de cette force, commençant ici maintenant, de l'est à l'ouest, de Vancouver à Saint-Jean. Et que tu reçoives l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.